mais il n'entendait pas les vagues, si tant est qu'il y en eut. Il se rendit compte en cet instant qu'il avait tout loisir de se baigner à Bohol. Il y avait une plage et une piscine à l'Encantador. Son voyage aux Philippines avait été inspiré par le brave gringo. Il n'avait pas songé à la baignade.
« Dis-moi, comment as-tu appris à nager dans l'Iowa ?» lui souffla Myriam à l'oreille.
Elle était à califourchon sur lui et il sentit qu'il la pénétrait de nouveau. Une parfaite suavité l'envahit. C'était comme nager, pensa-t-il, avant de deviner qu'elle avait lu dans ses pensées. Certes, ça remontait de loin, mais Loupé avait ce don, et il n'avait pas oublié l'effet que ça faisait. « J'allais dans une piscine couverte à l'université, commença-t-il essoufflé.
« Oui, mais qui, chérie, qui t'a appris, qui t'a emmené à la piscine ? Ah !»
Même dans le noir, Juan Diego ne pouvait pas répondre à cette question. Seigneur Eduardo lui avait appris à nager dans la piscine de l'ancien complexe sportif de l'Iowa, à proximité de l'hôpital universitaire. Edward Bonshaw, qui avait quitté l'enseignement pour se vouer au sacerdoce, avait été accueilli à bras ouverts au département d'anglais de l'université, son département d'origine. Flore adorait dire, en exagérant son accent mexicain,
« d'origine ».
Flore ne savait pas nager, mais dès que Juan Diego sut tenir dans l'eau, elle l'accompagna de temps en temps à la piscine, qui était ouverte au personnel, aux enseignants et à leurs enfants, et très appréciée des habitants du quartier. Seigneur Eduardo et Juan Diego aimaient beaucoup l'ancien complexe. Au début des années 70, avant la construction de la Carver Hockey Arena, c'était là qu'on pratiquait la plupart des sports d'intérieur. Ils venaient donc assister aux matchs de basket et aux compétitions de lutte. Quant à Flore, elle appréciait la piscine, mais pas le complexe en lui-même, trop de sportifs qui couraient partout. Les femmes qui amenaient leurs enfants près du bassin prenaient un air gêné en sa présence, mais au moins, elles ne la dévisageaient pas. Les jeunes hommes, eux, ne s'en privaient pas. Flore était grande et large d'épaules, homme masse d'allure, 1m89 et 77 kg. Et avec sa poitrine menue, elle était aussi attirante et féminine. À la piscine, elle portait un maillot une pièce, mais elle s'enveloppait la taille d'une grande serviette de bain qui en cachait le bas. D'ailleurs, elle ne se risquait jamais dans l'eau. Juan Diego ne savait pas comment elle se débrouillait pour la séquence déshabillage-rhabillage qui avait lieu dans le vestiaire des femmes. Peut-être n'enlevait-elle pas son maillot de bain, puisqu'il n'était jamais mouillé. « T'en fais pas pour ça, lui avait-elle dit. Mon bazar, je ne le montre qu'à Seigneur Eduardo. » C'était vrai à Iowa City, comme Juan Diego s'en rendrait compte un jour. De même qu'il comprendrait pourquoi Flore avait besoin de s'échapper de l'Iowa de temps en temps. Quand il croisait Flore à Oaxaca, frère Pépé écrivait à Juan Diego « Elle est ici, vous le savez sûrement, de passage, comme elle dit. Je la rencontre là où elle a ses habitudes, enfin, pas partout où elle a ses habitudes. » Pépé voulait dire qu'il avait vu Flore à la China, le bar gay sur Bustamante, celui qui deviendrait Chinampa. Il voyait sans doute aussi la Loca à la Coronita, où la clientèle était principalement homo et où les travelots se pavanaient en tenue de tombeuse. Pépé n'insinuait pas que Flore passait son temps à l'hôtel de passe. Ce n'était pas l'hôtel Somega, ni le fait d'être une prostituée qui lui manquait. Mais que pouvait bien fréquenter une personne comme elle à Iowa City ? Elle aimait faire la fête à l'occasion. On ne trouvait pas l'équivalent de la China, et encore moins de la Coronita, à Iowa City dans les années 70 ou 80. Quel mal y avait-il à ce qu'elle retourne à Oaxaca de loin en loin ? Frère Pépé ne la jugeait pas, et apparemment, Seigneur Eduardo était accommodant. Quand Juan Diego avait quitté Oaxaca, frère Pépé avait laissé échapper « Ne deviens pas comme ces Mexicains qui... » Il n'avait pas terminé sa phrase. « Qui quoi ?» avait demandé Flore. « Qui déteste le Mexique. Vous voulez dire ces Américains ?»« Mon cher enfant !» s'était exclamé frère Pépé en prenant Juan Diego dans ses bras. « Il ne faut pas que tu deviennes non plus comme ces Mexicains qui reviennent sans cesse au pays, qui ne peuvent pas en rester éloignés très longtemps faute de savoir couper le cordon. » Flore s'était contentée de regarder frère Pépé. « Et puis quoi encore ? Vous en avez beaucoup comme ça ? lui avait-elle ensuite demandé. La liste est longue ? Pépé n'avait pas jugé bon de répondre. Il avait murmuré à l'oreille de Juan Diego, « Cher enfant, deviens ce que tu veux, mais donne de tes nouvelles. » « Tu ferais mieux de ne rien devenir du tout, Juan Diego, » avait alors conseillé Flore à l'adolescent, tandis que Pépé pleurait à chaudes larmes. « Tu peux nous faire confiance, Pépé. Edward et moi, on ne voudrait jamais qu'il rate sa vie. On fera en sorte qu'il devienne un Mexicain lambda. » Edward Bancho, qui suivait la conversation d'une oreille distraite, n'avait perçu que l'énoncé de son nom, Eduardo, avait-il corrigé. Flore lui avait souri d'un air bienveillant. C'était mes parents, enfin, ils essayaient de l'être. C'est ce que Juan Diego aurait voulu répondre à voix haute, mais dans l'obscurité, les mots ne parvenaient pas à franchir ses lèvres. Oh ! Fut tout ce qu'il put articuler. Avec Myriam qui allait et venait au-dessus de lui, il aurait eu du mal à en dire davantage. Perro Mestizo, alias Bâtard, fut mis en quarantaine et sous observation pendant 2 jours. Quand on veut détecter la rage, c'est la procédure habituelle pour des animaux agressifs qui ne semblent pas en être atteints. Bâtard ne l'avait pas. Mais après avoir examiné la morsure sur le pied d'Edward Bancho, le docteur Vargas n'avait pas voulu prendre de risques. Pendant 10 jours, il n'y eut pas de numéro de chien savant au Circo de la Maravilla. La quarantaine du voleur de bébés bouleversa la routine dans la tente où vivaient Lupe et Juan Diego. Babi, le teckel, se mit à pisser par terre toutes les nuits. Pastora, le chien de berger femelle, gémissait sans arrêt. Estrella dut revenir dormir dans la tente pour la calmer. La présence de la dresseuse ronflant sur le dos, visage recouvert par la visière de sa casquette de baseball, donnait des cauchemars à Lupe. Mais Estrella affirmait qu'elle ne pouvait pas dormir tête nue. Les moustiques allaient piquer son crâne chauve, sa tête allait la démanger et elle ne pourrait pas se gratter sans retirer sa perruque, ce qui risquait de traumatiser les chiens. Pendant la quarantaine de Perro Mestizo, Alemania restait planté devant le lit de camp de Juan Diego et haletait frénétiquement au-dessus de son visage. Lupe reprochait au docteur Vargas de diaboliser Bâtard. Le pauvre Perro Mestizo, toujours cantonné dans son rôle de mauvais garçon, était une fois de plus une victime désignée. « Ce connard de chien a mordu Seigneur Eduardo !» lui avait rappelé Juan Diego. L'appellation « connard de chien » émanait de Rivera. Lupe ne croyait pas qu'il y eût des connards parmi les chiens. « Seigneur Eduardo est en train de tomber amoureux du zizi de Flore !» pleurnicha Lupe, comme si cette péripétie justifiait l'attaque de Perro Mestizo. Mais dans ce cas, Bâtard était homophobe, et cela ne faisait-il pas de lui un connard? Juan Diego persuada Lupe de rester à la Maravilla, du moins jusqu'à la tournée de Mexico. Ce voyage n'importait plus à sa sœur qu'à lui. Disperser les cendres de leur mère avec celles du brave Gringo et de Blanc-Sal, sans oublier les restes de l'énorme nez de la Vierge Marie, était primordial pour elle, qui était persuadée que Notre-Dame de Guadalupe avait été marginalisée dans les églises de Huachaca, cantonnée au second rôle. Esperanza, quelles qu'aient été ses fautes, avait été liquidée par la Vierge Monstre. La petite extralucide croyait que l'imposture de la religion serait réparée seulement si les cendres de sa pécheresse de mère étaient dispersées dans la basilique de Nuestra Señora de Guadalupe, à Mexico. Car c'était le seul sanctuaire où la Vierge à la peau sombre, la Virgen Morena, attirait des quarts entiers de pèlerins sur les lieux de son sanctuaire. Lupe attendait avec impatience de voir la chapelle du Petit Puits, où Notre-Dame de Guadalupe repose sur son lit de mort, dans un cercueil de verre. Malgré son infirmité, Juan Diego attendait lui aussi de pouvoir effectuer la longue ascension des escaliers sans fin menant à l'église où Guadalupe n'était pas reléguée dans une chapelle latérale. Elle trônait dans le cœur de la petite colline des roses que Lupe préférait appeler l'église des roses, plus solennelle. C'était là, devant le lit de mort de la Virgen Morena, dans la chapelle du Petit Puits, que les deux enfants disperseraient les cendres conservées dans une boîte à café trouvée par Rivera sur le basurero. Le contenu de la boîte ne rappelait en rien le parfum d'Esperanza. Les cendres avaient une odeur indéfinissable. Flore les avait senties, et en avait con-